Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et notre chef périgourdin, Christophe Maury, propriétaire de l'hôtel-restaurant. Hôtel de Bouillac, c'est en Dordogne. Cher Christophe, ça sent bon. Et c'est une assiette végétale que vous nous proposez ce soir, avec que des légumes donc.
Oui, le Périgord c'est aussi du végétal. Et donc là j'ai fait une polenta de châtaigne qui est juste dessous.
Claque, voilà, on la voit par vue aérienne.
Qui est fait au domaine de Rapatel en bio. Et un blaisotto aussi avec du lait d'amande, des cèpes, des betteraves blanches.
Et puis il y a du butternut rôti.
Butternut rôti avec des coriandres.
Qui est maintenu au chaud.
Voilà.
Parce que vous avez à cœur de nous faire manger chaud, cher chef.
Oui.
Et bien nous en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup.
Merci.
Et à tout à l'heure pour le dîner. C'est un avertissement assez inédit. Attention, un maestro peut en cacher un autre. Quand un chef d'orchestre, Denis Dumas, couronné par une victoire de la musique, pourrait éclipser François Dumas, le patriarche qui achève une longue et brillante carrière internationale, qui, du père ou du fils, aura l'honneur d'être choisi pour diriger la Scala, le Graal ultime pour un maestro.
Et le prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas.
Merci, je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père.
Et félicitations. Hein.
Pour
votre fils.
Il a été formidable, votre fils.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors on va pouvoir travailler.
Arrêtez!
Oui. C'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala.
Mais non.
Non mais c'est génial ça, bravo.
La Scala.
Je suis content pour toi.
On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous.
C'est une blague. C'est une catastrophe. À la Scala.
À la Scala.
Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui.
On manque de temps. Denis, parlez à votre père.
Faut que t'arrêtes de te sentir toujours écrasé par ton père.
C'est la Scala. Denis, c'est ton rêve.
J'ai pas l'expérience de mon père.
C'est pour lui que tu voulais faire de la musique?
Je voulais être proche de lui. Je trouve qu'on est pareil.
Non, non, je te ressemble pas. Hein.
J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir.
Dans la famille Dumas, Pierre Arditier, François, Yvan Attal, Denis à l'affiche de Maestro avec un S entre parenthèses, un film signé Bruno Chiche qui évoque, on l'aura compris, les relations père-fils sur fond de musique classique. Ils sont tous les deux ce soir nos invités.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça ronchonne déjà, quoi.
Absolument pas, non, j'avais peur de...
Mais arrivez plus lentement, Pierre.
Je vais vous serrer la main.
Dites donc.
Très, très loin.
Mais oui.
À deux à l'heure, Pierre.
Bonne
nuit, non, mais c'est pas possible, ce cabotin. Comment ça va,
Pierre?
On est ravis de...
Bonjour, mesdemoiselles. Comment ça va?
Ça va, mon gars.
Ah oui, c'est grande forme.
Salut, messieurs les maestros.
Merci de vous inviter le jour de la baguette.
Mais oui,
extraordinaire. Mais bravo,
bien sûr.
Le jour de la baguette.
Mais c'était fait exprès.
Mais oui, mais moi
comme
je suis venu avec mon crouton.
Bon, allez, on pensait que c'était un peu plus relevé, c'est devenu très très naze tout ça. Comment
voilà,
ça
vous
va?
Vous êtes très heureux, mais Pierre.
Un peu.
Bon.
Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il faut pas quoi qu'est-ce?
Tout va bien. Moi, j'allais vous faire des compliments, mais je.
Non, non. En fait, pas surtout.
Ah non, non, moi je veux bien, moi je veux bien, moi j'adore.
Ah ouais,
faites-en
okay.
Mes camarades.
Déjà, vous maniez tous les deux la baguette avec beaucoup de crédibilité. Deux rôles. Regardez-moi quand je vous parle. Deux rôles de custodieux, deux rôles de composition.
C'est horrible.
Il y a une cuisine, il est obsédé.
Non, pas du tout, c'est absolument pas ça. Alors allez-y, sortez-vous-en comme vous pouvez.
En revanche, jouer père et fils, c'était quasiment naturel parce qu'il y a une filiation entre vous deux.
Absolument.
Et oui.
Je sens qu'on va m'aider.
Non, mais oui.
Non, pas du
non, mais
tout.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Là, vraiment,
c'est la première chose qui m'est apparue en voyant le film, c'est de me dire c'est fou, ce rapport père-fils, comme ça marche très très bien.
Très très fort.
Il y a d'ailleurs une ressemblance physique entre vous, vraiment, vous trouvez, Yvan?
Je crois qu'il y a quelque chose quand même.
Pas vraiment. Enfin,
il y a quelque chose quand il avait 20 ans.
Une sorte de mimique.
Non, mais c'est vrai que vous êtes beaux tous les deux.
Oh, merci.
Oui.
Vous avez la jambe longue, Yvan.
Bien joué. Merci beaucoup.
Non, parce que les compliments étaient commandés en coulisses, aussitôt commandés, aussitôt livrés.
Bravo.
Voilà,
merci
directement
beaucoup.
Du producteur.
Je remercie la productrice. De...
Votre complicité, elle s'est nouée, elle s'est renforcée sur le tournage des Choses humaines. On vous avait reçu à l'époque, Yvan. Mais sauf que vous n'étiez pas le père d'Yvan, vous étiez le père de Ben.
Oui, de son fils.
Voilà.
Voilà.
Bah, parce et tout d'un coup, en un an.
Je suis devenu le père,
du père.
Du père. Voilà.
Et vous vivez ça comment ?
D'habitude, je suis devenu le père de mon père à une certaine époque, vous savez. Alors, bon, c'est très bien comme ça.
Et ça vous va ?
Ça ne me va pas si mal, finalement, oui. Oui. Chez moi, j'étais très... Enfin, tous les deux, d'ailleurs. Parce qu'au fond, on a découvert qu'on avait un peu vécu les mêmes choses avec nos pères respectifs, chacun de notre côté, et avec nos fils respectifs, chacun de notre côté. Parce que, bon, voilà.
On va en parler longuement,
oui,
mais
bien,
cette
ça.
Histoire, elle est assez universelle, en fait, c'est oedipien, en fait, est-ce qu'on doit ou pas tuer le père ?
Ah, faites attention, il va se fâcher.
Non, oui, enfin non.
Il va se fâcher, il ne comprend pas l'image de tuer le père, il le prend
au premier degré.
Non, enfin, ça ne veut rien dire, tuer le père, on ne tue pas le père, enfin, quand on a un père digne de ce nom, on ne le tue pas. Moi, j'ai eu un père génial qui a été un phare pendant toute ma vie. Mais je n'ai jamais pensé d'abord à le tuer, j'ai d'abord pris tout ce qu'il a pu m'apporter. Et ensuite, comme beaucoup d'enfants, à un moment donné, il a fallu que je, non pas que je le tue, mais que je m'éloigne légèrement pour commencer à devenir moi, alors qu'il avait commencé à me fabriquer déjà au départ.
Mais
c'est pas un meurtre, ça.
Une émancipation.
Et les parents sont des meurtriers, vous savez très bien que c'est comme ça. Ça n'existe pas. Il y a les bons pères, par le mien et encore, ça n'existe pas. On est toujours un assassin pour un enfant, parce qu'il cherche toujours autre chose. Il y a toujours où on lui coupe les cocougnettes, parce que tout d'un coup, il n'arrive plus à savoir comment, ou on ne l'aide pas pour aller là où il devrait aller et là où il devrait devenir enfin lui. C'est très compliqué. Des parents, c'est horriblement compliqué. On n'est jamais tout à fait un bon parent tout le temps. Ça n'existe pas. Prendre un exemple au hasard, c'est l'évidence même. Non,
oui,
je déconne, mais c'est vrai, je pense ça profondément. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord.
Ouais, ça vous
c'est difficile d'être... Moi, je réalise que je suis...
Très difficile.
Franchement, un moins bon père...
Que votre père ne l'était.
Que mon père.
On va y revenir longuement, parce qu'évidemment, c'est un peu une sorte de thérapie de groupe que propose ce film. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est la thérapie en musique que nous propose Sandrine Saroche et sa chronique enchantée.
Voilà, ça en est sorti.
Salut Sandrine.
Bonsoir à tous.
Salut.
Bonsoir Pierre. Bonsoir.
Bonsoir Sandrine. Bon.
Alors quand j'ai dit à ma mère que nous recevions Yvan Attal, elle m'a fait le jeune là, le ministre. Je l'aime pas trop. Alors maman, une bonne fois pour toutes, je voudrais que tu arrêtes de confondre Yvan Attal et Gabriel Attal. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui fait du cinéma. Oui, l'autre aussi. Bon, alors c'est un mauvais exemple. Du coup, j'ai préparé un petit quiz façon qui veut gagner des burgers quiz. Alors, est-ce qu'on peut envoyer la musique qui fait peur ? On est d'accord que tout le monde peut jouer.
D'accord.
Quiz.
Musique.
Qui est de gauche, mais quand même un peu de droite ? Yvan Attal, Gabriel Attal ou les deux ?
Gabriel Attal.
Oui, je sais. C'est difficile parce qu'on peut, hein. Il y en a un qui et l'autre qui... Bon, alors.
Ça sent bien, cette émission,
alors,
ça sent bien.
Une autre plus fastoche. Quiz. Qui a voté pour Anne Hidalgo aux dernières municipales à Paris ? Yvan Attal ? Gabriel Attal ? Ou...
Ah non, mais je le laisse faire, moi, je ne me regardais
ou
pas.
Ou aucun des deux ?
Yvan.
Là, effectivement, je crois que c'est clair pour tout le monde. Alors, je précise qu'Anne Hidalgo n'a rien à voir avec l'augmentation du pass Navigo à 90 euros, pour une fois que ce n'est pas elle. En même temps, le pass Navigo, elle s'en tamponne, puisqu'elle ne prend jamais le métro. En tout cas, ça fait 15 ans que je prends le métro. J'ai jamais vu Anne Hidalgo. J'ai beau aller chez l'ophtalmo, j'ai jamais vu Anne Hidalgo dans le métro. Peut-être qu'elle a un wagon perso, pas savoir. Peut-être qu'elle a pas de passe Navigo. Peut-être que pour Anne Hidalgo, 90 euros par mois, ça fait chéro. Pourtant, c'est vraiment bien le métro. C'est le meilleur endroit pour pécho, vous êtes d'accord ? Il y a plein de beaux gosses qui sont dispo. Ah non, pardon, lui c'est le patron, il est nouveau. Quand je prends le métro, place de Clichy, Parfois je croise Pierre Arditi. Quand je change à Châtelet, Léa régulièrement, je tombe sur Yvan Attal. Il est beau si je suis pas trop à la bourre. Je lui chante du Charlotte Gainsbourg. Et les jours où j'ai pas piscine, je lui susurre un petit air de Jane Birkin, sa belle-mère. Toutes les vedettes prennent le métro. Il y a même mes affiches dans le métro. Tout le monde est accro au métro. Il y a que Babette qui prend pas le métro. Et pourquoi Babette, elle fait autant de vélo, hein? Parce qu'elle s'entraîne incognito pour les JO.
Oh!
Oh. Et oui!
C'est vous?
Ben oui, c'est moi.
Regarde pas devant elle quand elle fait du vélo. Oui.
Elle est trop mignonne cette photo, ma belle.
Oui, elle est vraiment jolie.
Oui, merci beaucoup.
Et t'as toujours la même robe, hein, où tu l'as mis l'autre jour.
On peut remercier vos parents, Babette.
Elle touche aussi.
Cette petite photo,
toux, hein. Oui, c'est ça, oui.
Il va falloir que vous me remplaciez au pied levé.
Tu parles. Voilà.
C'est
la fin. C'est la fin, c'est les derniers instants.
Alors Pierre, alors c'est l'œil de Pierre.
Bon d'accord, on enchaîne avec mon œil. Alors forcément les deux garçons, j'ai pensé à vous et à votre film Maestro en décidant de vous parler ce soir d'Ettore Scola, qu'on appelait le maestro du cinéma italien de l'époque. Mercredi prochain, après avoir applaudi votre maestro, vos maestros, il faudra aller voir le bal d'Ettore Scola. Vous l'avez vu sans doute Pierre, oh oui. Vous aussi sans doute Yvan. Je prends les choses dans l'ordre. En 1981... Bien avant le film, une troupe de françaises de théâtre très talentueuses, le théâtre de Campagnol, a proposé un spectacle qui, à travers une salle de bal populaire, racontait la France des Français anonymes depuis le Front populaire jusqu'aux années 80. Ça a été un très grand succès et le metteur en scène italien tellement amoureux de la France, Ettore Scola, voit le spectacle, décide d'en faire un film avec la troupe française qui avait créé le bal. Dans cette salle de bal, les gens vont et viennent, trinquent et dansent. Il n'y a pas une parole, mais beaucoup de regards qui en disent long. Par exemple, sur une musique de Charles Aznavour, vous connaissez, vous savez, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés.
Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue.
Le Front populaire, vous allez voir dans ce spectacle, c'est vraiment beau et émouvant. Vous allez découvrir cette France du Front populaire aux années 80. Le Front populaire, vous aurez l'impression d'y être. Vous allez voir, on vient d'apprendre les congés payés, on a l'impression d'une nouvelle vie, d'un horizon qui chante, la valse qui tourne, tourne comme les yeux des amoureux. Mais on ne va pas chanter longtemps, puisque la guerre va survenir et la salle de bal est alors le témoin des familles effrayées qui fuient leur appartement quand la sirène hurle de se mettre aux abris pendant la victoire éclair des Allemands avant l'occupation. En fait, dans ce film qu'on a vu, nous, parce qu'on est de la génération de l'avoir vu, mais qui ressort enfin en salle, le personnage principal, c'est la salle de bal. Et vous allez, au fil des épisodes, vous attacher à ces visages, à ces regards qui ont fait craquer Ettore Scola. Et les mêmes vous feront plus tard connaître les années rock. Et les amis, en redécouvrant le film l'autre jour, qui a été magnifiquement restauré, je me suis rendu compte que dès 1983, bien avant le Me Too d'aujourd'hui, Ettore Scola filmait dans son bal une sorte de Weinstein Frenchie qui venait importuner les danseuses.
J'ai un pute ça.
«
C'est impressionnant, hein.
Ouais, ça a 40 ans, celui-là.
40 ans, c'est 84. C'est 83.
C'est extraordinaire.
Il faut rappeler tout de suite qu'en 84, il obtient 3 Césars, le meilleur film, le meilleur réalisateur pour Ettore Scola et la meilleure musique pour Vladimir Cosma, qu'on ne présente pas ici. Ettore Scola, qui nous a quittés en 2016, à l'âge de 84 ans, était un homme drôle, extrêmement intelligent, cultivé, un intellectuel européen magnifique. On a aimé La Terrasse, on a aimé Nous sommes tant aimés, Une journée particulière. Et je vous rappelle que c'est lui qui, avec La nuit de Varennes, a le mieux filmé la fuite de Louis XVI. Voilà, le bal, c'est mercredi de la semaine prochaine.
Ah oui, à ne pas manquer. Oui.
Ah oui, franchement.
C'est... Et demain, Maestro.
J'ai pas eu la chance de le voir.
Ah oui, tu vas voir, tu
Et
vas adorer.
Je vais foncer mercredi prochain adorer. Au cinéma. Comme j'ai déjà vu Maestro,
bah oui.
Sur grand écran.
Sur grand écran, bravo.
J'irai voir le bal aussi sur grand écran mercredi prochain. Merci Pierre. Et merci Pierre de m'avoir donné un mouchoir. C'est un geste d'une galanterie qui se perd.
Oui, c'est Pierre Tchernia qui m'a appris ça.
C'est un beau geste.
Il m'a dit, un homme digne de ce nom a toujours 2 mouchoirs propres sur lui, en tissu. L'un pour lui-même et l'autre pour une femme qui en manquerait, qui en aurait horriblement besoin. Pas de Kleenex, un mouchoir en coton, là, comme ça. Il est à vous, je vous le laisse.
Merci,
c'est
Pierre.
C'est un cadeau. Et ça me fait plaisir que ça vous serve.
Ben oui, là, c'est très utile. J'ai presque envie d'être malade pour toujours.
Non, ne faites pas ça, ça ne vaut pas le coup. Et alors, la preuve, vous voyez, regardez. Hop, comme il en reste encore.
Hein? Ah oui, il y a... Oh, donc là, vous comptez rencontrer beaucoup de femmes en détresse.
Très large, quoi.
Là, en ce moment, je suis toujours...
Il y avait un business plan gigantesque.
Je suis à peu
près,
alors j'en regarde un programme, mais il m'en reste un autre, j'avais quelqu'un.
Merci, Pierre, je le garde précieusement.
Je comprends.
C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Quoi?
Aider l'Ukraine à passer l'hiver. La question domine l'agenda des pays membres de l'OTAN réunis à Bucarest. Pour l'Alliance, les Russes utilisent le froid comme une arme de guerre.
Avec ces montagnes de charbon, le paysage à la centrale de Saint-Avold a bien changé ces derniers mois. Pour la redémarrer, il a d'abord fallu trouver du combustible en très grande quantité, sans l'acheter sur le marché russe.
Aujourd'hui, il y a 420 000 tonnes, c'est du sud-africain. On ne fait pas de gaieté de cœur, hein, de tourner. Hein. La pollution, enfin, les tonnes que vous voyez là, c'est du CO2 en puissance. Hein.
La crise énergétique, l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires expliquent le retour de cette centrale à charbon.
Une des conséquences peut-être du réchauffement climatique, la présence de nombreux pingouins tordas près des côtes. Ils ont été signalés à plusieurs endroits le long de la côte méditerranéenne, notamment dans le Var, les Alpes-Maritimes ou comme ici en Corse. Le constat est très inhabituel. Les pingouins sont souvent mal en point. Il pourrait s'agir d'un manque de nourriture qui pousserait ces oiseaux marins à se rapprocher de l'homme.
Une scène à peine croyable à la sortie du métro parisien. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche.
Oh là 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 là.
Il y a une souris dans votre sac.
Quoi ?
Il y a une souris dans votre sac, oui.
Oh mon Dieu. Yeah.
Mais ah bah vous voyez, elle est juste là.
Ça alors, madame, vous avez une souris dans la manche.
Regardez ça.
C'est... En fait, c'est pas une souris, c'est un rat.
Ça part à Cannes direct, prix d'interprétation. Et ce n'est pas le seul incident incroyable qui s'est produit au détour d'un micro-trottoir sur CNews aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est là? J'ai un truc là.
Oula madame, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous incommode?
Oh, regardez ce que j'avais dans la manche, une chauve-souris sous craque. Bravo Hidalgo, hein, bravo la gauche.
Zéro pointé.
La fédération iranienne a accusé son homologue américaine d'avoir retiré les symboles représentant Allah sur le drapeau iranien pour présenter la rencontre États-Unis-Iran sur ses réseaux sociaux. Un geste symbolique et temporaire pour montrer la solidarité des États-Unis envers les femmes en Iran.
Vous savez que les joueurs iraniens n'avaient pas chanté l'hymne pour soutenir les manifestants sur le premier match. Ils l'avaient chanté finalement sur le deuxième. On apprend aujourd'hui que leurs familles des joueurs, ont été menacées d'emprisonnement et de torture si les joueurs venaient à répéter ces marques de soutien.
La mobilisation des psychiatres aujourd'hui dans toute la France. Les psychiatres hospitaliers, ils dénoncent le délabrement et l'abandon du secteur.
On dit souvent que le degré de l'avancement
de l'humanité dans une société, la façon dont elle s'occupe de ses malades mentaux. Et c'est quand même un critère, j'ose pas dire de civilisation, mais en tout cas d'humanité.
Polémique après qu'une professeure à Valenciennes qui s'occupe d'une association pro-migrants ait décidé d'emmener en sortie scolaire ses élèves dans un camp de migrants à Calais. Elle refuse de renoncer à cette sortie malgré la polémique. Alors l'idéologie pro-migrant a-t-elle fait son entrée à l'école ?
Après la polémique, la rupture de stock. Retiré de la vente par la FNAC après le tweet d'un syndicat de police, le jeu de société Antifa est épuisé, rapporte son éditeur. Victime de son succès, le jeu où il faut animer un groupe antifasciste fictif est devenu le cadeau de Noël idéal dans les milieux d'extrême gauche.
On la connaît depuis 25 ans, Freed from Desire. Le tube anticonformiste de 96, repris à tue-tête dans les vestiaires des Bleus, c'était après la victoire sur le Danemark.
Donc ils attendent bien évidemment que le feu passe au rouge pour aller dans la rue, crier, voilà, tout le monde est content, on se prend dans les bras, on est hyper ravis que le Japon ait gagné contre l'Allemagne, c'était la semaine dernière. Et puis d'un coup, on va vite s'écarter parce que le feu va vite passer au vert. Donc il faut bien sûr permettre aux automobilistes de partir, de passer.
Non, voilà, ça,
vite,
c'est
on
bien
s'en
ça.
Va. C'est ce qui s'appelle être civilisé et être poli. On en rêve en France, à Paris notamment. Voilà, ça se passe pas partout pareil, c'est bien dommage. Ouais.
Encore, les gens en veulent toujours plus, dit la chanson. L'amour et la liberté, c'est ça que je cherche. Ce tube planétaire anticapitaliste n'a jamais été aussi d'actualité.
On a aujourd'hui 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme de retraite et c'est encore plus élevé dans les classes populaires. Et on va décider, dans ce temps-là, de mettre en place une mesure contre le peuple, sans le peuple. Je pense que c'est très dangereux.
Oh là là.
Canal.
Eh ben c'est pas le canal qui a le feu en haut de la tour.
On va faire un petit blind test, un blind beat test. C'est donc Sly qui va s'y coller.
C'est ça.
Un blind test de beatbox.
Ah, j'ai cru un blind test de beat. Là je peux peut-être gagner.
Oh my god.
Bravo. Yes. Yes.
Waouh. Lago a dit ça à la télé comme ça.
Et alors comme si c'était déjà pas assez galère de faire 42 km en buvant que du vin, la plupart des gens courent déguisés. Et je pense qu'on a trouvé le déguisement le plus chic qui existe. En fait, non, je vois pas comment on peut faire plus élégant.
Oh, vous avez même
le petit robinet. Patrick, allez voir le petit robinet.
Merde, si c'est pas la classe.
La cortisone.
Voilà pour le vu du jour. Impossible quand on pense à un chef d'orchestre de cinéma de ne pas penser à Louis de Funès dans La Grande Vadrouille.
Il est en bas.
C'est 7.
Oui, il est en bas.
Voilà, très bien.
Ta-da-da-da. Si vous faites ta-da-da-da, si vous
voulez. Ah non.
Qui c'est qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et vous croyez-vous?
Mais à l'opéra, maître.
C'est drôle, ça. Alors sortez. Alors tout le monde, sortez tous. Je ne veux personne pour que je répète. Tout le monde sort. Et vous les musiciens, un peu. Et vous les fleuristes, un peu moins de bruit, s'il vous plaît.
En fait, il a fait la coupe de cheveux de dans le film, ça y est.
Mais il y a un petit peu le côté irascible aussi, hein. Si.
Irascible dans le personnage.
Ah bah
vous voulez
oui.
dire
quand il gueule, quand il engueule tout le monde parce qu'ils ont le malheur de dire du bien de son fils, quand il dit mais non taisez-vous, arrêtez-vous, stop, c'est nul. Il y avait un petit côté Louis de Funès, enfin Louis de Funès oui. dans La Grande Vadrouille.
Oui, enfin si vous voulez, oui.
Ou Pierre Arditi.
Non, mais je n'ai pas copié Louis de Funès. Je l'adore, c'est mon idole, c'est pas le problème. Mais non, le personnage, il est, enfin, c'est autrement. C'est moins marrant quand même.
Oui,
c'est le fond est moins marrant. C'est quand même il y a quelque chose là-dedans qui effectivement qui le perturbe. Et quand on lui propose, qu'on lui propose au téléphone, tout s'efface. D'ailleurs, c'est assez, enfin, je crois que c'est pas mal quand ouais. d'un coup la voix se déchire et, ouais. et ouais, parce que. Quelque chose, la chose à laquelle il rêvait, semble lui arriver. Voilà. Donc moi, je veux bien que vous me parliez de Louis de Funès, mais je suis emmerdé parce que quand même, il me semblait que je l'adore. Mais je n'ai c'est un personnage qui ne peut pas s'apparenter à cette tessiture-là, à ce moment-là. Mais c'est pas grave, hein.
Mais vous avez
Anne-Elisabeth, je l'adore, elle est merveilleuse. Non, mais c'est pas grave.
J'ai regardé que lui.
Comment ?
En fait.
Non, pas du tout, non, pas du tout.
Il y avait
elle
n'a
regardé
choix...
que toi. Elle n'a regardé que toi.
Mais mon modèle, c'était De Funès.
C'est vrai ?
Oui.
Mais diriger un orchestre, c'est une expérience extraordinaire. Vous comparez ça d'ailleurs au fait d'enfourcher une moto et de donner un coup d'accélérateur.
Oui. Moi, je me suis retrouvé en face de 50 musiciens. Et que tout d'un coup, bam, on les entend partir tous d'un coup. On n'a jamais l'occasion d'avoir 50 musiciens devant soi. Quand les cuivres, les cordes, tout le monde part en même temps, on a un sentiment de puissance
totale.
Total.
Mmh. Oui.
Pour apprendre les bons gestes, la bonne mécanique, vous avez travaillé avec des coachs.
Oui.
Et pour tourner vos scènes, vous aviez chacun un chef d'orchestre en miroir.
Ouais.
Oui.
Bah, merci Yvan.
Vous êtes dans mon camp ce soir.
Hein.
Non, je ne suis pas sûr, j'ai bien sûr.
Yvan.
Oui. Non, on avait... En fait, quand on a commencé à travailler, à répéter, on s'est rendu compte que c'était... Il fallait un an, deux ans, trois ans de travail. C'est franchement très, très difficile déjà de faire...
Regardez, c'est
la première fois de ma vie que j'arrive.
Mais parce qu'il faut dissocier la main droite de la main gauche.
Absolument. La main droite, c'est la baguette. La main gauche, celle du cœur. C'est impossible... De réussir quand même à coordonner tout ça. Ensuite, en plus, un chef d'orchestre a un temps d'avance sur l'orchestre. Donc quand on écoute la musique, on a envie de taper au rythme de la musique.
Mais si on fait comme ça, c'est trop tard.
Il faut avoir un temps d'avance. Voilà. Donc c'est franchement difficile. Donc on a fait un travail avec des chefs d'orchestre qui nous ont coachés, qui nous ont expliqué les rudiments. Mais c'était impossible de devenir techniquement chef d'orchestre. Et c'était très, très amusant d'avoir un chef d'orchestre, pendant qu'on dirigeait l'orchestre, qui, lui, dirigeait vraiment, et on faisait vraiment les singes comme un miroir. Ça veut dire, on mimait ce chef d'orchestre-là. C'est pour ça que les gestes paraissent...
Ultra crédibles.
A priori crédibles.
Oui, ils sont relativement crédibles.
Ah oui, très crédibles. Hein? Enfant, vous imitiez les chefs d'orchestre, Pierre ?
Oui, parce que j'étais issu d'une famille de gens qui aimaient la musique classique. Et alors, enfant, vers 10 ans, comme ça, le dimanche, je mettais sur le tépaz qui rayait tous les vinyles, Mozart, ou Bach, comme ça, j'ouvrais la fenêtre, rue des Martyrs, au quatrième étage, et je commençais à diriger comme ça, et je regardais, subrepticement, en faisant hurler le truc, si par hasard, les jeunes filles qui passaient en contrebas me regardaient en se disant « Mais ce type est admirable, c'est Mozart, il est beau. » Voilà.
Vos parents étaient persuadés d'avoir donné...
Mes parents étaient persuadés d'avoir mis Mozart au monde parce que j'avais...
Je reproduisais,
à vous dirais-je, maman de Mozart d'oreille, avec les mains désympathisées, comme on dit. Mais bon, c'est pas grand-chose. Enfin bon, c'était pas mal, ça voulait dire que j'avais une bonne oreille. Alors ils ont fait venir un ami à nous, de la famille Jean Casatsu, qui était le fils de Robert. Et on m'a dit, si Jean, est-ce que tu peux venir ? Oui, bien sûr, elle est venue. Alors, j'ai fait ça, moi, comme ça. Et puis, mes parents se sont retournés vers Jean. Ils ont dit, alors ? Et Jean a dit, oui, bon, c'est très bien. Hein. Oui, bah, faut lui donner un prof de solfège. D'accord. Voilà, on m'a donné un prof de solfège. Les doigts comme des petits marteaux. J'ai fermé le cœur. Et comme des cons, que j'aime passionnément, mes parents m'ont laissé faire cette connerie de ne pas continuer à faire de piano. Et c'est une véritable connerie, mais il a eu la même chose.
Mais on regrette tous, non ?
Mais c'est pas c'est une connerie.
De pas faire de
musique. Donc je me suis juré que j'allais me racheter un piano, parce que même à mon âge, eh bien, on peut peut-être encore se faire plaisir avec ça. Quelques 3-4 ans, on peut s'amuser pour soi. Il n'y a plus question de devenir un concertiste.
Oui.
Voilà. C'est comme
ça. On parlait tout à l'heure des rapports père-fils qui sont au cœur de ce film, de la façon dont ça nous renvoie chacun
à nous-mêmes,
à nous-mêmes, à notre histoire personnelle, au rapport qu'on a avec son père. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Pierre Arditi, avec le regard que vous portez sur votre père, Georges, dont vous avez dit qu'il était un phare de votre vie.
Ah,
ça a donné à l'équipe de C'est à vous d'aller chercher une archive que je ne connaissais pas, que j'ai découvert tout à l'heure, qui est
avec mon
particulièrement
père
émouvante. Oui, c'est... un midi sur Antenne 2, journal d'Antenne 2, vous présentiez face à Noël, ma mère, qu'on
c'est
va
ma mère,
voir,
oui,
peu
c'est
importe, voilà, quelques œuvres de
mon
votre
père.
De votre père, on va regarder.
C'est un grand trompe-l'œil qui fait tout un pan de mur. En fait, ce qui est derrière lui est faux et vrai, hein, puisqu'il a pris ses rêves pour des réalités, comme disait Lénine. Alors, il a beaucoup évolué, il est passé de ce type de grande toile figurative à des choses... peinte différemment. Enfin, c'est difficile de parler de peinture aussi vite et j'en parle pas bien, moi. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin, moi, j'ai baigné dans cet univers comme ça de création. Mmh. Et c'est resté un endroit magique.
Ah oui. Ça fait bobo, ça. Mmh. Ah, mais... bah, je ne le... Enfin, je me souviens, je m'en souviens, oui.
Oui.
Il y a... Ouais, oui, il y a longtemps. Oui.
Est-ce qu'on ressent ce qui ressort de cette séquence, c'est de la fierté, hein?
De mon père?
Oui.
Ah oui. Oui. Oui, y compris quand j'ai décidé effectivement de prendre un peu la tangente comme ça. Il m'a appris l'essentiel, mon père. Il m'a appris que c'était pas grave d'avoir un duffelcoat quand les parents de mes petits copains étaient en costume trois pièces avec un machin comme ça. Mon père ne ressemblait pas aux autres. Et vous savez, quand les enfants voient des parents, leurs parents qui ne ressemblent pas aux autres, ça leur plaît pas. Ça leur fout la trouille. Et mon père m'a expliqué que l'essentiel n'était pas là, que c'était ailleurs que ça se passait. Tout à fait. Il n'y a jamais eu d'argent chez moi, il y a toujours eu tout le reste. Donc j'ai été admirablement élevé. Admirablement élevé.
Bohème.
À un moment donné, c'est un peu comme ça, parce que politiquement, on était moins d'accord, parce qu'il m'a envoyé un jour une lettre qui est agrac, qui est punaisée devant mon bureau, que je vois tous les jours, où il était marqué « Mon fils, que deviens-tu ? » On te voit là, on te voit là. On te voit là, tu cours là, tu fais ci, tu fais une émission de variété. Pourquoi pas un truc de striptease, un machin comme ça. Tu fais du théâtre, mais finalement tu l'arrêtes. La lettre était terrible. D'ailleurs, je suis à la limite.
Vous n'avez pas les archives du striptease ?
Non, elles n'ont pas eu lieu. Cette lettre, je la garde parce qu'il avait raison. Je me perdais. Et donc, mon père m'a appris... à avoir le courage de ne pas trop me perdre, ce que j'ai fini par faire grâce à lui.
Ben, votre fils, Ben a choisi le même métier que vous. Vous l'avez dirigé à plusieurs reprises, Mon chien stupide, Les choses humaines. Juste pour sourire, on va voir que c'est pas toujours facile de jouer père et fils dans le même métier, dans le même film, et que quelquefois c'est encore plus dur pour le fils. Par exemple, c'est juste pour sourire, pendant la promo des choses humaines.
Est-ce que Yvan pourrait nous présenter Ben?
Il n'a pas besoin.
Je peux me présenter. Mais c'est vrai, pardon, je ne connais pas.
Il a une boucle d'oreille depuis cet après-midi.
T'es vraiment lourd, putain. Non, mais t'es une tannée, on en a parlé pendant une heure, là.
Je ne peux pas m'empêcher.
C'est bien. Je te jure. Chut.
Le père est plus taquin que le fils.
Oui, mais c'est vrai que cette boucle d'oreille, ça m'avait fait chier de le voir comme ça arriver avec une boucle d'oreille. C'est idiot, c'est ridicule.
Voilà.
J'en ai eu moi-même une.
Ben voilà.
C'est absurde, oui, mais oui, justement, je suis un père con, en fait.
Et vous vous êtes demandé ce que vous pourriez ressentir si on confiait finalement à Ben, malgré la courte différence d'âge, si on confiait à Ben finalement le rôle que vous espériez obtenir.
Mais c'est tout ce que je lui souhaite, en fait, évidemment. Je lui souhaite, s'il a vraiment envie de continuer ce métier, il vient de tourner avec Thierry Cliffa.
Ouais.
Je crois qu'il est encore, mais peut-être qu'il n'ose pas s'avouer encore lui-même qu'il a vraiment envie de faire ça, mais je le soupçonne d'avoir envie de faire ça. Je lui souhaite, évidemment, 100 fois plus que moi. À ce moment-là, peut-être que je serai un peu crispé, mais,
oui.
Mais je lui souhaite...
Il va être un peu crispé.
Je lui souhaite, évidemment.
Mais c'est l'exemple type, ça.
Mais vous
le
n'avez
père
pas
qui voit le
très
fils,
photo,
pas comme
revanche,
ça.
Mais
votre, c'est absolument l'exemple type.
Sur Instagram, votre meilleur ami de la boule d'oeil,
c'est quoi? Oui, c'est vrai, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'étais très touché par ça.
Ah non, c'est lui.
Il y a une conversation parallèle là, qui s'est établie.
Oui, parce qu'il est
non, mais j'écoute absolument, non, mais je parlais de ton rapport, du rapport à ton fils dans ce court extrait, qui est d'ailleurs très touchant et qui me rappelle des trucs que j'ai pu faire moi-même avec mon propre fils, où je me suis dit, mais c'est con, cet enfant perd un temps fou. Je vais, moi, lui expliquer ce qui ne sert à rien de vivre et ce sur quoi il faut qu'il se concentre. Après avoir dit cette connerie à voix basse dans ma cervelle, je me suis mis une gifle et je me suis dit, mais ta gueule, il va découvrir ça lui-même. Tu t'imagines tout de même pas que tu vas lui dire, ne vis pas ça, fais pas ça, ça sert à rien, fais pas ça, c'est comme ça. Mais on sait rien, peut-être lui, ça lui servira. Une connerie absolument phénoménale. Comme quoi, mais pas toujours un bon père.
Pierre Arditi, Yvan Attal, Maestros,
chaque fois que vous dites ça, J'ai l'impression que c'est Pierre Arditi, 1898-1956. J'ai l'impression que c'est une ode funèbre.
Non, c'est pour rappeler que Maestro sort la semaine prochaine, oui. Mercredi prochain au cinéma, avec Pascal Arbillot,
Caroline Anglade,
qui joue une violoniste formidable, ouais. Qui ne sera pas premier violon, et j'en ai déjà trop dit.
Nils Sautenay-Girard, qui joue mon fils.
Ouais, ouais. Qui est formidable aussi.
Formidable. Et puis on rappelle qu'au théâtre, fallait pas le dire, cette formidable pièce de Salomé Lelouch reprend 10 dates exceptionnelles du 20 au 31.
Sens, oui, on va te capter et ensuite on part en tournée.
5 mois, j'ai adoré.
J'ai le droit de dire encore un truc, pas sur fallait pas le dire, merveilleux. C'est simplement le rôle des femmes dans ce film-là, il est absolument majeur. C'est-à-dire que les hommes de cette histoire, c'est elles, ce sont elles. Eux naviguent dans des fragilités qu'on peut comprendre comme ça. Mais enfin, comme toujours, comme presque toujours, les femmes montrent aux hommes le chemin pour devenir vraiment des hommes. Ce qu'ils acceptent quelquefois ils ne le font pas et ils ont tort. Moi, je dois tout aux femmes. C'est elles qui ont fait ce que je suis devenu. Bien ou mal, elles ont tout fait et tout bien. On ne peut pas dire autre chose. Sans les femmes, le monde ne vaudrait pas le coup de vivre.
Merci Pierre. Je prends ça pour moi.
Ben, prenez ça pour vous aussi.
Vous avez déjà un mouchoir.
Vous en faites partie. Alors, vous en voulez un deuxième
s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ici là, on passe à table, on va écouter Julie Fuchs sur la scène de ses amours.
Ah, oh.
Qui va chanter un extrait des Noces de Figaro, évidemment. Soprano. C'est en rapport avec Soprano, oui. Maestro, mais d'ici là, Zoé Bruno, j'étais à ça.
On va s'asseoir.
J'étais à ça.
Ah, oh, je t'ai pas dit, on va adopter avec Eduardo.
Non, c'est
oh,
pas
mais
vrai.
Oui.
Oh là là.
Oh, il est trop mignon, il s'appelle Châtaigne.
Bah, c'est horrible, le pauvre.
Mais.
Ah, oh, c'est un chien.
Bah oui, c'est un cadeau de maman.
Mais c'est dégueulasse. Pourquoi elle veut pas que j'adopte un animal et toi, elle t'en offre un?
Bah.
Moi, je voudrais adopter un petit chat.
Hein? Mais quelle erreur d'adopter un chat! Alors là, tu peux dire au revoir à ta vie sentimentale, tu vas habiter chez lui, tu vas puer. Ben oui, ça pue, un chat.
Elle est gonflée, elle en a un, elle, deux chats.
Ben oui, mais elle pue, maman.
Bon, en tout cas, j'ai pas lâché. Je voudrais adopter un chat à la SPA.
Oh, quelle idée! Quand tu veux un enfant, t'adoptes un bébé, tu vas pas aller adopter un clodo.
Ça va pas, la tête!
Ben ça, alors là, fais-moi confiance, hein. J'en ai adopté plusieurs fois là-bas. Ils durent moins longtemps.
Ah, hein?
Regardons sur le site, ça, tu verras, il n'y a que les invendus.
Donc on regarde sur le site du refuge, on fait défiler les profils. Oh là là. Oh, regarde, il y a sa biographie, c'est trop mignon. Hein? Je m'appelle Birdie, j'ai deux yeux de verre et la patte arrière paralysée. Comme je suis vieille et malade, j'ai très peur de finir mes jours dans une petite cage toute seule.
Fais voir lui. Ah, oh, lui, il a l'air plus en forme. Mmh. Tartampion a subi des maltraitances de la part de ses anciens maîtres qui ont fini par l'abandonner sur la nationale. On l'a retrouvé effrayé, mourant et frigorifié dans le bois. Ben non, il va pas mieux, lui. Hein.
Mais qui écrit ces biographies?
Des pervers narcissiques.
C'est pas facile, la vie. Ouais. Moi, quand j'étais petite, mon père n'avait pas assez d'argent pour faire euthanasier nos chats quand ils tombaient malades. Alors, il les jetait dans la rivière.
Hein. Oh.
C'est horrible. Mais quelle enfance elle a eue, maman?
Ben oui, ben ça coûte cher, un chat. Hein? Alors t'as le veto, t'as les vaccins, les croquettes, la litière, ça c'est le chat ou ton fils. Hein? Va falloir choisir. Ben tu peux pas avoir les deux.
C'est vrai qu'il me coûte déjà tellement cher.
Ben ça m'en parle pas, tu m'as ruiné toi. Alors, chat ou fils? Fils ou chat? Allez tiens, je vais le prendre pour moi, le petit vigleux.
Ben allez, t'inquiète pas. Hein, tu seras la marraine de Châtaigne.
C'est gentil, mais c'est pas pareil. J'étais à ça d'adopter un chat.
Amadé, c'est le titre du nouvel album de la soprano Julie Fuchs. Amadé, c'est le diminutif d'Amadeus, c'est le prénom de Mozart. Et c'est ainsi qu'il signait ses lettres envoyées à sa famille. Julie Fuchs a une relation particulière avec Mozart. Et c'est l'acte 3 des Noces de Figaro, l'aria, d'Ofsone Ibei Momenti, que vous nous interprétez ce soir, accompagné au piano par Alphonse Semin. Julie Fuchs, c'est à vous.
Dove sono i
album Amadé. Bonsoir, bravo. Bonsoir. Bienvenue à notre table et heureuse de vous présenter notre chef, Christophe Maury, qui va arriver au pas de course pour nous présenter son assiette végétale périgourdine. Cher Christophe.
Oui. Bah, j'ai voulu vous faire une assiette végétale, puisque le Périgord, c'est souvent le foie gras et les choses comme ça. Donc là, vous avez de la châtaigne bio du domaine de Rapatel, avec une polenta, c'est vraiment unique comme produit, c'est les seuls qui font ça, avec des butternuts rôtis, des coriandres, des cèpes, plein de saveurs, une espuma à la truffe. Voilà.
Merci infiniment.
Merci beaucoup, bon appétit, merci encore.
Verdict, vous avez goûté, Pierre?
Ben, c'est bon, oui, j'ai eu un petit peu comme ça, j'ai... Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis toujours... Bon, c'est que la mode, maintenant, c'est... Tout est végétal, tout est végétarien, tout comme ça, mais dans le genre, c'est très, très bien fait, quoi. Bon, moi, ça ne me gêne pas que le Sud-Ouest fasse de temps en temps un peu de foie gras ou un peu...
On en avait hier.
Oui, non, mais ça... Non, mais... on n'était pas là hier.
Oui, d'accord, mais monsieur fait tous les jours.
Pas là. Non, ça, c'est délicieux, c'est très bon, évidemment.
Oui, c'est...
Bon.
Non. La baguette est dans ma loge.
Bon appétit.
Merci, chef.
Merci, hein.
Mais je vous la donnerai, cher Yvan. Bonsoir, Julie Fuchs. Ravie de vous présenter... Bertrand Chameroy, toute l'équipe, mais aussi Yvan et Pierre. C'est pas étonnant que vous consacriez cet album à Mozart, qui est votre compositeur préféré. Est-ce que c'est normal quand on est soprano?
Non, j'ai beaucoup de collègues qui détestent chanter Mozart. Hein.
Ah ouais?
Ben oui, parce que ça pardonne rien, que c'est intransigeant, que ça peut aussi, pour certaines oreilles, paraître simple, un peu trop parfois. Allô? Eh oui, ah mais tout le monde n'a pas la même sensibilité.
C'est pas simple du tout.
Et en fait, c'est évidemment une simplicité qui, en fait, ouvre sur une grande profondeur.
Vous avez vraiment une quasi-relation amoureuse avec Mozart, au point d'avoir songé à vous faire tatouer Amadeus sur le corps?
Oui, notamment pour faire des photos, mais je ne l'ai pas fait.
Vous avez finalement renoncé. Patrick?
Il n'y a pas que des airs connus, il n'y a pas que des tubes de Mozart sur votre album. Vous avez aussi intégré un air que le grand public ne connaît sûrement pas, qui est un opéra inachevé, ou plutôt un Singspiel, c'est ça, hein?
Bravo.
Zaïd,
ouais.
Une pièce que Mozart a laissée en plan et qui a été reprise bien plus tard. On écoute l'air que vous interprétez. Zaïd de Mozart. Pourquoi ?
C'est un air qui m'a accompagnée en tant que jeune chanteuse. Cet album est un album d'intimité avec Mozart, de par les thèmes des œuvres, mais aussi de par mon rapport que j'ai à ces œuvres-là. Et cet air-là, c'est l'air que j'ai le plus chanté en audition, notamment quand j'étais en jeune chanteuse, parce que je trouve que c'est un air qui permet de lâcher l'énergie et le stress dès le début. Et qui a quand même une grande variété de couleurs dans sa terre, comme souvent chez Mozart d'ailleurs.
Les images qu'on a vues sur cette terre sont celles de votre enregistrement, oui. Puisque vous avez enregistré au château de Fontainebleau. Et là aussi, même question que tout à l'heure, pourquoi ?
L'orchestre avec lequel j'ai enregistré, le Balthasar Neumann Orchestra, est en résidence dans ce château. C'est un château qui a une grande histoire d'accompagnement de l'art et des artistes. Et il se trouve que du coup, ça s'est fait là-bas. Et j'en suis très heureuse parce que, à part le fait qu'on a eu très froid, parce que c'était en janvier, que si on allumait le chauffage, ça faisait du bruit, donc c'est pas terrible pour enregistrer. La salle des balles dans laquelle on enregistrait était vraiment un lieu extrêmement inspirant au niveau de l'acoustique.
Mais aussi... Ah bon, pour l'acoustique, c'est bon aussi. Hein.
Ah, merveilleux, merveilleux. Je le dis pas trop parce que tout le monde va vouloir aller là-bas enregistrer maintenant. Mais aussi parce que c'est un endroit qui a des fenêtres. Et souvent, quand on enregistre, c'est en studio. Donc là, on pouvait regarder. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup de voir dehors quand je fais de la musique. Donc voilà, c'était très inspirant.
Lors de l'enterrement de Johnny Hallyday, il y a 5 ans, vous aviez interprété un magnifique Ave Maria aux côtés de Yvan Cassar au piano et de Gauthier Capuçon au violoncelle. L'émotion est palpable. On imagine que ça reste un moment très intense pour vous.
Oui, mais en vérité, je dois avouer que je m'en suis rendu compte après, quand les gens m'en ont parlé, parce que moi, c'est mon métier de chanter devant des gens qui éprouvent des émotions. Alors là, c'est particulier, mais en fait, j'étais là en tant que professionnelle, et donc j'étais concentrée sur le fait de bien chanter cette musique devant des gens qui étaient là pour que ce soit bien chanté. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte de ce que ça représentait après, avec les caméras, etc., puis le fait que ça n'arrive qu'une seule fois, que voilà... effectivement, je me suis rendu compte de l'honneur que c'était. Et puis j'ai une famille extrêmement fan de Johnny Hallyday qui a été d'ailleurs qui a fait la sécurité au concert de Johnny Hallyday. Donc voilà, j'étais heureuse aussi de pouvoir faire résonner du Schubert auprès d'un public qui ne savait certainement pas d'ailleurs que c'était du Schubert, mais qui a été ému par cet extrait de Schubert.
Vous êtes aussi à l'aise dans le registre de l'opéra que dans celui de la comédie musicale. Et on verra ça lundi prochain dans Le Grand Échiquier, dans lequel vous interprétez un extrait de l'opéra de Katsu aux côtés de Patrick Bruel.
C'est un homme qui s'écroule sans un râle, sans un cri. Mais un homme fend la foule et s'éloigne.
Alors, c'est de la comédie musicale, mais vous aimez aussi beaucoup la variété. Et on vous a demandé si vous voulez bien nous interpréter un air, une chanson française. Et vous avez choisi de chanter
Barbara. C'est vraiment la première chanson qui m'est venue quand on me demande de chanter deux, trois notes. Je suis plutôt habituée à chanter avec des orchestres devant plein de gens. Et en fait, ça, pour moi, c'est beaucoup plus intimidant.
Non, mais Pierre va chanter avec vous.
Mais je suis sûre. C'est la magie de la musique, c'est qu'on s'y retrouve tous. Bref. Je compte sur vous.
Ah non. Vous pouvez compter sur moi pour vous écouter avec la plus grande des bienveillances et d'admiration. Mais pour le reste...
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble le jardin refleuri et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
C'est merveilleux.
Merci.
L'émotion que génère la musique, on la ressent en vous écoutant ce soir, on la ressent en écoutant votre album Amadé, qui est disponible depuis le 18 novembre, on la ressent en vous regardant, messieurs, dans Maestro, voilà ce film de Bruno Chiche qui sort mercredi prochain au cinéma. J'ai un exemplaire, donc je vous le fais passer, Pierre, mais Yvan à la baguette, que je lui... Et puis on rappelle que vous êtes jury dans l'émission Prodige.
Moi, je vais l'acheter. Tout de suite.
C'est le jeudi, oui.
Voilà,
jeudi 22 décembre à 21h sur France 2, vous êtes jury de l'émission Prodige. On conclut cette émission comme tous les soirs avec Bertrand Chameroy et ses actualités.
C'est de musique que tu parles. C'est un peu compliqué.
Bonsoir à la une de ce 30 novembre. Notre décompte féerique J-24 avant la Noël. Et cette année, les cadeaux arrivent avec un petit peu plus d'avance.
Vous l'avez détesté.
Patrick Cohen ?
Il vous a gêné.
Patrick Cohen ?
Étouffé.
Patrick Cohen ?
Embué.
Patrick Cohen ?
Ces élastiques. Il est de retour. Le masque anti-Covid. Oh, cette odeur.
Oui, bah c'est la vôtre, Bruce. Hein. C'est pas le masque qui est responsable pour le coup. Alors heureux, ça nous avait manqué tout ça. Alors pour oublier, je vous propose une pause détente avec la compilation des gens qui portent des noms joyeux qu'on a croisés aujourd'hui dans les JT. On a croisé Monsieur Laurent Bien, qui doit être très pote avec le maire d'Orbec, Monsieur Cool, qui l'est devenu au contact de...
La parole est à Monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement National.
Évidemment, il n'y a pas de mystère. Et on m'informe que les 7 d'or vont se relancer suite à la diffusion de ce magnéto uniquement pour m'en remettre un. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette information de première importance, évidemment... Ah bah non, mais pourquoi il lance... Bah non, la chronique n'est pas terminée. Ça, c'est vraiment une manie chez TF1. Il lance des pubs alors que les choses ne sont pas terminées. Faites-le sur vos matchs si vous le voulez. Faites-le sur les questions de Patrick. Je peux le comprendre parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a... Mais parce que tu es proche de moi. Donc ah oui, dès que ça doit tomber sur quelqu'un, c'est sur toi. Mais pas pendant ma... Qu'est-ce que c'est que ce Larsen ?
Un four,
très bien. Un de plus pendant ma chronique, je dirais. Foot, donc, c'était tout à l'heure. France-Tunisie. Et une fois de plus, les Madame Irma avaient vu juste.
C'est l'heure des pronostics. 2-0 pour l'équipe de France. 1-0 avec l'entrée d'Mbappé. 1-0 pour la France, but de Matteo Guendouzi. 2-0 et Kolo Muani avec en plus la rentrée de Giroud.
2-1 France.
1-0 France.
1-0 Mbappé.
Moi j'étais aussi sur le 1-0.
Ok. Pas une dedans. De son côté, BFM avait fait appel à Roland Courbis pour débriefer le match. Un Roland qui était un petit peu trop bavard aux yeux de Jean-Baptiste Boursier, qui a une manière très subtile et pas redondante de lui dire de la fermer.
Il y a quand même une précision.
Merci beaucoup, Roland.
Que je peux te donner.
On s'arrête.
L'idée de Didier, c'est de mettre des défenseurs défensifs. Et donc, c'est un petit peu comme il voulait Matuidi au milieu.
On y va, Roland. Donc, c'est... On va s'arrêter. On s'arrête là.
Allez. Allez, ta gueule. Allez, merci. Merci, Roland. Merci. Et Jacques Vendroux, dans tout ça, me direz-vous, eh bien, tonton passe d'excellentes vacances aujourd'hui. Il a braqué la boutique Souvenir des Bleus.
J'adore.
Il passe du bon temps et ce n'est pas tout. Jacques Vendroux a été récompensé hier par la FIFA pour sa 15e couverture de Coupe du Monde. L'occasion d'un bel échange avec Pascal Praud.
Qui vous a remis cette décoration d'une certaine manière, Jacques ? Bonjour.
Ronaldo, en toute simplicité.
Cristiano Ronaldo, donc, qui vous donne...
Ronaldo, le Brésilien.
Oui, pas Cristiano, pardonnez. Le vrai.
Ah oui. Vous vouliez dire le gros, Pascal ? Bah, très bien. Et sinon, le resto de l'hôtel est bon, tonton ?
C'est vrai qu'on mange merveilleusement bien.
Oui, mais quoi ?
Pas de problème majeur. Ben, on mange un poulet frite, on peut manger des pizzas, on peut manger des escalopes.
Eh ben super, on se rappelle demain. Gros bisous à toute la famille. Lui aussi prend du bon temps, Gérald Darmanin, en Nouvelle-Calédonie, pour discuter du futur statut de l'île, mais pas seulement. Il s'est recueilli devant un tapis et il était très touché. Il s'est déguisé en gilet jaune, bel hommage à Jacqueline Mourot. Puis il a enfourché un canasson.
Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop.
Et il est à l'aise, hein.
Le cheval, c'est génial.
À part ça, à Paris, jusqu'à dimanche, a lieu une collecte nationale d'armes de particuliers organisée par le commissariat du 16e, événement traité par Cédric Fesch sur BFM. Et si je bossais dans leur rédac, je me tiendrais à distance parce qu'il est un petit peu flippant ces derniers temps.
Plus de 60 000 armes déjà collectées depuis une semaine. Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, est dans un commissariat parisien pour faire le bilan de cette collecte d'armes entamée il y a une semaine en France. La récolte a été fructueuse aussi à Paris, vous verrez.
Si vous êtes à BFM, ne le fréquentez pas de trop près. Vous êtes peut-être en train de faire vos achats de Noël. La FNAC a finalement décidé de remettre en vente le jeu Antifa qu'elle avait retiré de la vente et ça ne plaît pas du tout au RN Louis Alliot qui a pris une décision radicale ce matin.
Mais pas d'accord, oui, mais voilà, moi je n'irai pas à la FNAC tant que ce jeu sera dans les rayons. Et pourtant je suis un client de la FNAC. Mais là pour le coup, ils ont perdu un client.
Wow, on se connecte tout de suite avec la direction de la FNAC pour les informer.
Messieurs, Louis Alliot a décidé de boycotter la FNAC.
Ok, d'accord. Sinon, toi, tu pars où cet hiver ?
Il y aura clairement un avant sympa, et un après. Tout le monde s'en bat les steaks. Sinon, ce matin, c'était battle d'anecdotes sur CNews.
Vous avez demandé à un artisan récemment combien de temps il fallait pour faire une baignoire chez vous ? Combien de temps il fallait pour poser une fenêtre ? Il y a 6 à 9 mois d'attente.
Non, mais par contre, j'ai eu un producteur d'endives qui était presque en pleurs parce qu'il allait, il allait peut-être faire une...
Mais quel est le rapport ? Eh bien, moi, je sais faire inspecteur gadget avec mes joues. Voilà, quitte à ne pas être dans le sujet. Olivia Grégoire, qui a trouvé un bon moyen d'échapper à la tannée du réveillon dans sa belle famille, elle détaille son agenda à l'antenne lors des interviews pour montrer qu'elle n'a pas le temps pour ça.
Je suis déjà une maman d'une petite fille de 10-11 mois. J'ai les PME, le commerce, le tourisme, l'artisanat, les indépendants, les professions libérales et la consommation. On a l'inflation, on a la matière première, on a la guerre en Ukraine, on a des gens inquiets. Il s'avère que je suis aussi élue de Paris.
Donc ne comptez pas sur moi pour le réveillon de Noël. Et puis c'était l'événement hier sur CNews, le rat qui est sorti de la manche d'une personne interviewée à la cantonade dans une rue. Une dame avait un rat, une souris dans son... dans sa manche. 24 heures après, oui, ils sont toujours en boucle dessus.
Pour Madame Hidalgo, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des rats, et de plus en plus. Il faudrait...
Pour la montrer sur CNews avec cette dame qui en avait un dans sa manche.
Image terrifiante.
Et là, clairement, en conférence de rédaction, ils se sont dit, on tient un truc avec les rongeurs, on va pas le lâcher.
Elle finira son journal par cette information, parce qu'hier soir, il lui est arrivé quelque chose de très étrange.
Mais quoi ? Voici l'anecdote.
Soir. Bon, c'est pas si grave.
Non.
Mais je dînais dans une brasserie parisienne et en plein dîner, j'ai une petite souris qui est apparue sur ma chaise.
C'est voilà. Tout. Moi, c'est arrivé.
Et j'ai la vidéo.
Et vous l'avez filmé.
Depuis 24 heures, CNews, c'était les ratatouilles. Et ce n'est pas le seul témoignage choc de la journée.
Donc, bon, ben, comme tous les jours, bon an, mal an, j'arrive à mon poste. Et là, qu'est-ce que je trouve à côté de mon clavier ? Une souris ! Bravo la gauche ! Bravo Hidalgo !
Ah, quel scandale, il y en a vraiment partout.
Oh, attention, ma pédale !
Ah, oh là là, j'envoie les images tout de suite. Ah, c'est... T'as pas vraiment eu peur de ça, c'est un intermittent du spectacle sous le costume. On remercie Régis Herlin pour cette magnifique prestation. Il lui manquait 2 heures sur les 507. L'info continue demain. Bonne soirée à tous.
Bravo Bertrand Charleroi. Merci beaucoup Julie. Merci cher Pierre, cher Yvan. Bravo à tous les trois. Sur France 5, tout de suite, la grande librairie Augustin Trapenard reçoit notamment Riyad Satouf pour le 6e tome de l'Arabe du futur. Et si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs, on se quitte sur l'aria extrait de l'acte 3 des Noces de Figaro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain 19h en direct. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.